le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, vous écoutez France Culture et c'est avec joie que je vous accueille pour le premier service protestant de cette année 2021 qui vous est présenté par Jean-Luc Gadreau. Avant de vous présenter mon invité, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et belle nouvelle année. Alors bien sûr, même si celle que nous venons de vivre nous a terriblement secoués, même si les circonstances toujours du moment sont encore bien compliquées et floues, j'aimerais malgré tout vous offrir en guise de vœux ces paroles anciennes qui sont aussi d'ailleurs celles choisies par la Fédération protestante de France pour cette année 2021. Nous les trouvons dans la Bible, le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Alors donc maintenant, je me tourne vers mon premier invité de l'année. C'est un jeune pasteur qui exerce en Alsace. Bonjour pasteur Jean-Philippe Le Pelletier.
Bonjour.
Alors vous êtes pasteur de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément à quel endroit ?
Alors je suis pasteur à Sainte-Marie-aux-Mines, c'est plus généralement dans le Val d'Argent. C'est une petite vallée haut-rhinoise coincée entre le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges.
Alors je disais jeune pasteur, c'est en âge, mais c'est aussi en termes de reconnaissance pastorale, n'est-ce pas ?
Oui, non seulement j'ai 34 ans effectivement, donc je suis encore assez jeune, mais j'ai aussi été ordonné, reconnu au ministère il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en 2018, en octobre 2018. Avec tous les défis que ça comporte, j'en suis très heureux malgré tout.
Peut-être que un certain nombre de personnes peuvent se poser la même question que moi. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix particulier ? Qu'est-ce qui fait qu'à votre âge, on puisse envisager aujourd'hui de voir son parcours professionnel, mais aussi bien plus largement sa vie, dans un engagement spirituel comme celui-là, total, et puis donc en tant que pasteur ?
Alors, grosse question, je dirais, hein, mais je dirais 2 choses. D'abord, disons que pour moi, il y a déjà un amour particulier pour l'Évangile et pour le Christ. Hein. Ça anime ma vie, ça anime mon cœur et ça déborde en moi. Depuis mon lycée, mes années 17-18 ans, quelque chose s'est passé en moi à ce moment-là. J'ai grandi dans une famille pastorale déjà, hein. Donc mon père était pasteur aussi de l'UEPAL, mais disons qu'au bout d'un moment, j'ai dû aussi m'approprier ma tradition, on va dire, et m'y plonger plus profondément. Et donc depuis, effectivement, il y a quelque chose en moi que j'ai envie de partager à d'autres et d'annoncer, au point que ça ait fini en tout cas par apparaître comme un appel et comme une évidence que je voulais y consacrer ma vie, quoi. Et donc faire profession de témoin, en quelque sorte, si je puis dire. Au point que voilà aussi l'amour que j'ai pour les gens me donne envie de les accompagner sur leur route, sur leur chemin avec le Christ, en leur offrant tous les outils spirituels, théologiques, humains qui sont à ma disposition pour les aider eux aussi à aller plus loin sur ce chemin-là.
Alors ce ministère, vous le vivez de diverses façons. Vous interviewez par exemple de jeunes chrétiens sur Instagram, vous animez plusieurs blogs, vous faites des podcasts.
Je suis pas forcément un grand admirateur d'Internet et des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, hein, mais j'ai quand même grandi avec, ça fait un peu partie de ma vie, de mon ADN. Il faut pour nous tous, d'une manière générale, arrêter de se faire l'illusion qu'il y a d'un côté une vie réelle et de l'autre une vie virtuelle. Et tout est désormais un peu imbriqué et s'influence au point que je dirais qu'il est temps d'être soi-même sur Internet aussi, d'y partager l'Évangile comme on le fait dans la vie, avec tous les moyens qui sont à notre disposition pour y partager notre vision du monde, de la vie, de la foi. Donc pour moi, ça résonne avec surtout les outils qui parlent peut-être plus à ma génération à moi, comme d'autres générations le font. Hein. Donc pour moi, c'est Instagram. C'est important de donner la parole à des jeunes qui sont dans la tranche d'âge d'Instagram, 15-30 ans, pour qu'ils puissent partager aussi leur vécu de foi, faire office de témoignage aux autres. Le blog, il y a aussi quelque chose là-dedans du partage et d'apporter une réflexion avec un moyen qui, moi, me parle, qui est celui du blogging, avec des articles plus ou moins longs. Les podcasts, il en va de même. Hein. Ma génération est une grosse consommatrice de podcasts en général, comme d'autres, hein, mais et particulièrement quand même. Et voilà, disons que j'utilise aussi les moyens dans lesquels je grandis pour pour vivre ma foi, mon ministère et tout ce qui va avec, quoi.
Et puis j'ai entendu parler aussi d'un tout nouveau site que vous venez de monter, le 7e monde.fr, tout accroché, le 7e monde. On y trouve quoi dans ce 7e monde ?
Alors le 7e monde à l'origine, c'est une référence à un artiste de comics, donc de bande dessinée américaine qui s'appelle Jack Kirby, qui a créé toute une fresque de comics qui s'appelle le 4e monde, avec les nouveaux dieux qui combattent entre Néogénésis et Apocalypse, une espèce d'enfer et de ciel. Il y a une dimension très théologique et donc j'ai voulu faire une référence ainsi à Jack Kirby en créant le 7e monde qui est le lieu où la culture, notamment populaire, et la théologie, la spiritualité se rencontrent. C'est surtout donc un site d'articles de réflexion théologique et spirituelle sur la culture en général, et donc sur un disque en particulier, sur un morceau de musique, sur une série télévisée, un jeu vidéo, un film, une bande dessinée. Parfois des articles plus de fond sur la théologie, parfois vraiment sur les rapports théologie-culture. Mais en tout cas, faire résonner cette possibilité que Dieu peut nous parler aussi à travers ces biais-là, y compris peut-être là où on l'attend le moins.
Passionnant en tout cas tout ça. Alors maintenant, il est temps de vous écouter. Le titre que vous proposez à ce moment maintenant, en plus, c'est « Les dimensions du cache-cache divin ». Alors je trouve ça étonnant, ça fait envie, envie de vous suivre et espérons-le aussi de vous retrouver finalement à la fin. Alors c'est à vous, Jean-Philippe Lepelletier.
Chers auditeurs, ce matin, c'est à une partie de cache-cache que j'aimerais vous inviter. En réalité, la partie dure depuis des millénaires, avec deux joueurs. D'un côté, il y a Dieu, autrement appelé le Créateur, le Rédempteur, la source de tout amour et de toute vie. Et de l'autre, il y a l'humanité, autrement appelée nous. Vous allez me dire, mais Dieu n'est-il pas celui qui se révèle à nous ? Et vous auriez raison, c'est vrai. Et d'ailleurs, le protestantisme, illuminé par la révélation biblique, a beaucoup insisté sur la révélation de Dieu qui se donne à connaître à nous. Et pourtant, cette dernière n'est pas une évidence, car souvent elle s'accompagne d'une dose d'énigmes qui reste impénétrable. Le Dieu révélé est aussi un Dieu caché qui, depuis l'origine des temps, joue une partie de cache-cache où il se fait tantôt mystère, tantôt évidence. Ainsi, aujourd'hui dans la Bible, nous lisons simplement ce verset du livre du prophète Ésaïe au chapitre 45, le verset 15. Dieu d'Israël, toi qui sauves, tu es vraiment un Dieu caché. Seigneur, voilà des millénaires que notre frère Ésaïe a prononcé ces paroles. Aujourd'hui, elles résonnent jusqu'à moi. Tu te montres dans l'histoire des femmes et des hommes comme un sauveur pour nous tous, tout en restant caché dans ton mystère infini. Comment percer le mystère de ton obscurité ? Comment apercevoir quelque chose derrière le voile ? Toi qui te caches, comment te révèles-tu à nous ? Quel visage nous montres-tu ? Nos pères dans la foi t'appelaient parfois ineffable, inconnaissable, innommable. Moi, je suis moins sûr de mes mots. Je sais qu'il me serait impossible de percer ton secret. Et pourtant, je garde en moi ce désir profond de pouvoir te contempler face à face, au-delà de tout voile, de toute obscurité. En attendant, Seigneur, je continue de célébrer le mystère de ton amour.
All to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, 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 is me. Cease. Blessed be the
laissez-moi vous raconter une petite histoire. Dans la Bible, le livre de la Genèse raconte l'histoire d'un homme errant, fuyant, qui passe la nuit dans un désert. Son nom est Jacob, et cette nuit-là, c'est avec une pierre comme oreiller qu'il fait le choix de dormir, au milieu de nulle part. Et pourtant, c'est dans ce lieu banal qu'il fait un rêve transformateur, où il observe une échelle d'où montent et descendent des anges, alors que Dieu se tient près de lui et lui fait une promesse de vie et de bénédiction. Mais c'est surtout la réaction de Jacob une fois le rêve terminé qui semble intéressante pour nous. En se réveillant, il s'exprime en disant « C'est sûr, le Seigneur est ici et je ne le savais pas. » Dans ce lieu banal et commun, Dieu est présent. Dieu se cachait sans que je le sache. Cette histoire de révélation mystérieuse me révèle une dimension du cache-cache avec Dieu. Un peu comme un enfant qui sortirait de derrière le rideau furtivement, révélant avec malice sa cachette sans prévenir, Dieu se montre à Jacob pour lui révéler sa promesse de vie. Par le caractère parfaitement imprévu de cette rencontre, Dieu révèle son incorrigible imprévisibilité et sa liberté fondamentale. Dieu se cache, mais il est libre de se montrer. Dieu se révèle, mais il est libre de se cacher. Pour l'être humain, Dieu est toujours un être de surprise qui se révèle là où on ne l'attend pas, n'agit pas là où on l'attend et comme on l'attend. Le cache-cache révélateur nous montre ce mystère d'un Dieu libre et imprévisible. Dieu comme un être libre et imprévisible, à l'image de cette chanson de Neutral Milk Hotel. Mais quel est le lieu où se révèle le mieux à la fois sa révélation et son incognito? Où trouvons-nous la plénitude du Dieu caché et pourtant révélé? Cet extrait chanté par Jeff Magnum, avec un timbre de muezzin, nous en donne une prémisse de réponse. Pour la théologie chrétienne, le lieu de la révélation est par essence la vie et l'œuvre de Jésus-Christ, de sa naissance à sa résurrection, en passant par sa vie, son enseignement et sa mort. Et pourtant, là encore, nous faisons face à un Dieu imprévisible qui choisit de se manifester dans un simple charpentier, originaire d'un petit village reculé de Galilée, d'où rien de bon ne semble pouvoir venir. Les évangiles représentent un récit improbable où le salut du monde, notre salut, vient d'un homme qui ne semble être rien, au point qu'il ait été identifié au serviteur souffrant du prophète Ésaïe, méprisé, abandonné des hommes, dédaigné. Dans les évangiles, particulièrement chez Marc, la surprise, l'étonnement sont souvent accolés à la figure de Jésus, figure libre et imprévisible qui semble cacher quelque chose d'une ampleur incroyable. On se pose la question à son propos, mais qui est donc cet homme à qui la tempête obéit, qui chasse les esprits impurs, qui guérit les malades, rend la vue aux aveugles, et parle avec autorité. Il y a quelque chose de louche, il cache quelque chose. Il est forcément plus que l'homme banal qu'il semble être de prime abord. Mais l'un des meilleurs exemples reste le récit de la croix dans l'évangile selon Marc. C'est là que nous découvrons la quintessence du Dieu surprenant qui se dévoile là où on ne l'attend pas. Nous sommes face à cet homme ensanglanté, cloué sur une croix, symbole de mort et d'échec par excellence. Et pourtant, c'est face à cet homme-là que le centurion romain, un païen, révèle la vérité. Cet homme était le Fils de Dieu. Derrière le voile du bandit exécuté, ce représentant d'un pouvoir oppressif sait reconnaître le visage de Dieu. Là encore, Dieu se cache là où on ne l'attend pas. Et il illustre le salut du monde de la manière la plus étrange possible. Ce faisant, tout comme il se révèle auprès de Jacob comme le Dieu qui bénit, il se révèle en Christ comme l'innocent qui porte sur lui le fardeau du monde, comme celui qui se place du côté de l'opprimé, du rejeté, de l'être humain en situation d'échec et de mort. Chaque petit dévoilement sert à parler, à nous montrer une facette de sa personne. Mais ces révélations fugaces ne sont que plus précieuses compte tenu du fait que Dieu se cache.
Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé. Mon âme s'en était de Canadair. De ciel embrasé de Canadair. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé. Dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé. Dans la musique d'os de sous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup, j'ai glissé.
Vous écoutez le service protestant sur France Culture, les dimensions du cache-cache divin. C'est le titre de la méditation que nous apporte actuellement le pasteur Jean-Philippe Lebeltier.
J'ai glissé, je me suis redressé. Je suis tombé, couché à terre, mais j'ai été remis debout. Une histoire banale que nous raconte ici le chanteur Bertrand Belin, avec ses mots tout en poésie et sa voix de crooner qu'on lui connaît. Mais pour moi, bien plus qu'une chanson agréable, c'est aussi une expérience, une petite révélation d'importance au milieu de la partie de cache-cache que Dieu joue avec moi. Elle m'évoque ce moment difficile de ma vie où, comme le personnage de Bertrand Belin, j'ai glissé, étant métaphoriquement par terre dans mon être intérieur. Et c'est là, dans les transports en commun, que cette chanson arrive dans mes oreilles et se rappelle à moi. Ce n'est pas la première fois que je l'entendais. Mais peut-être pour la première fois, je l'ai écouté. Et fugitivement, j'y ai trouvé un parfum d'éternité qui me disait « Tu sais, il est possible de se relever. Et être remis debout, n'est-ce pas justement une marque de la résurrection ?» Cet exemple me montre, avec une assurance bien fragile, personnelle et intime, que Dieu se cache aussi parfois dans un endroit aussi improbable que les mots d'un chanteur français né dans le Morbihan. N'avez-vous jamais également ressenti ainsi, dans certaines œuvres culturelles, une amplitude incroyable, un souffle qui se dégage du commun pour toucher l'universel, la possibilité, l'éternel? Dieu ne peut-il pas aussi sortir furtivement de sa cachette, à travers un film ou une simple mélodie porteuse de sens et de vérité? Et si la véritable question n'était pas plutôt: sommes-nous ouverts à recevoir Dieu partout et à chaque fois qu'il sort librement et furtivement de sa cachette? Dans la parole de l'Évangile annoncé, bien sûr, mais aussi dans un désert banal d'où apparaît la porte des cieux, dans un charpentier juif de Galilée où nous rencontrons le visage de Dieu, ou dans une œuvre culturelle où il s'adresse à nous sans crier gare. J'aime ainsi beaucoup ce récit raconté par Martin Buber dans les récits hassidiques, qui nous parle du petit-fils du rabbi Baruch, qui s'appelait Yehel, et qui se précipita un jour en larmes dans sa chambre. son grand-père lui demanda « Yael, Yael, pourquoi ces larmes ?»«
Mon ami triche. Ce n'est pas juste de tricher. »«
Mais qu'a fait ton ami ?» lui répond-il.
« Nous étions en train de jouer à cache-cache, et je me suis si bien caché qu'il n'a pas réussi à me trouver. Alors il a arrêté de jouer, et il ne m'a plus cherché. Tu comprends, grand-père, moi je me suis caché, et lui ne m'a pas cherché. »
Rabbi Baruch, bouleversé, eut du mal à retenir ses larmes en disant « C'est exactement aussi ce que dit Dieu. Je me cache, et personne ne veut me chercher. »
Came to the end, it seems you had heard. As we walked the city streets, you never said a word. When we finally sat down, your eyes were full of spite. I was desperate, I was weak, I could not put up a fight. But where are you now? Where are you now?
Nous l'avons dit, et Ésaïe aussi, Dieu est souvent planqué. Mais le cherchons-nous aux endroits imprévus où il sort de sa cachette pour se révéler à nous. Car nous l'avons dit aussi, Dieu ne passe pas son temps dissimulé. Il s'est révélé à Jacob, il nous montre son visage en Christ et continue de se dévoiler à nous. Tout cela a son sens, sa fonction. Comme l'écrivait le penseur Blaise Pascal en 1656, « Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire. Et s'il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. » Il faut donc un peu de cachette et un peu de mystère pour qu'il y ait la foi. Et il faut un peu de révélation pour entretenir la flamme. Là derrière, le Dieu libre et imprévisible laisse une place à la liberté imprévisible de l'humain pour qu'il le cherche et lui accorde librement sa confiance. Pascal, très attaché à cet incognito de Dieu, écrivait ainsi « Dieu est caché, mais il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. » Chers auditeurs, en conclusion de cette partie de Cache-Cache, j'aimerais non seulement nous inviter à devenir un peuple en quête qui porte sa casquette de chercheur de Dieu pour trouver où il dévoile sa vérité, mais aussi à devenir nous-mêmes cachettes. Puissions-nous, nous aussi, devenir ces œuvres par lesquelles Dieu laisse furtivement apparaître un rayon de sa grâce dans un univers gris.
And you're going in the tower. I hear stories of your smile, I hear stories of your frown. And the darkness can descend, we can relish all the pain.
C'était le service protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Anne-Laure Chanel et avec Anthony Thomasson à la prise de son. Merci à Jean-Philippe Le Pelletier, pasteur de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, à Sainte-Marie-aux-Mines. Cette émission est à réécouter et podcaster sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Elle est également disponible sur le site protestantaupluriel.org où vous pourrez retrouver aussi le texte du jour. Si vous souhaitez réagir, nous écrire, une adresse, Service Protestant, 47 rue de Clichy, 75 009, Paris, ou par courriel, communication@fédérationprotestante.org. Et comme tous les premiers dimanches du mois, je vous retrouve tout de suite pour Culture Protestante.
Do you ever think of me in the quiet?